Chapitre 34. Une flèche d'argent. Elaine étant chargée de la cuisine, inutile de dire que le dîner n'eut rien de simple. Même s'ils mangèrent assis sur des tabourets autour d'un feu de camp, avec comme fond sonore le chant des grillons et les tristes appels sporadiques de quelques oiseaux de nuit. La soupe fut servie froide, engelée, et saupoudrée de ferris frais hachés. Bien entendu, la lumière seule savait où la fille héritière avait déniché du ferris frais. Idem pour les petits oignons qui accompagnaient les pois. Ensuite, le rôti de bœuf, coupé si fin qu'on voyait presque à travers, fut servi en roulade farcie d'un mélange de carottes, de haricots, de ciboulettes et de fromage de chèvre. Comble du raffinement, un petit pain d'épices était prévu pour le dessert. Bien que tout fût très bon, Elaine se lamenta de n'avoir pas obtenu le résultat qu'elle visait, comme si elle s'était mis en tête de rivaliser avec le cuisinier du palais de Kemlin. Cette attitude, Nineveh l'aurait juré, n'était pas une manière de quémander des compliments. Quand quelque chose n'allait pas à ses yeux, les félicitations la hérissaient. Comme de juste, Tom et Juline râlèrent sur la portion de viande, trop petite à leur goût, mais ils mangèrent avec un appétit vorace et parurent très déçus quand il ne resta plus rien dans leur assiette. Lorsque l'ancienne sage-dame se mettait au fourneau, les deux gaillards se débrouillaient toujours pour se faire inviter par une autre roulotte. Et quand l'un ou l'autre cuisinait, c'était immanquablement un ragoût ou encore un haricot de mouton tellement pimenté qu'on en avait la langue en feu. Les quatre voyageurs ne dînèrent pas seuls, bien entendu. Apportant son tabouret, Luca le posa à côté de celui de Nineveh. Sa longue cape lui faisant comme une traîne, il s'installa de manière à mettre en valeur ses longues jambes, en particulier ses mollets galbés, juste au-dessus de la lisière de ses bottes à revers. Il venait presque tous les soirs, sauf, bizarrement, ceux où Nineveh se chargeait de la cuisine. Il était très intéressant, franchement, qu'un homme ne regarde qu'elle alors qu'il y avait Elaine dans les environs. Mais Luca avait une idée derrière la tête. S'asseyant bien trop près d'elle, par trois fois elle avait déplacé son siège, mais il l'avait suivi comme si de rien n'était, en continuant la conversation, il entreprit de la comparer à toutes sortes de fleurs, sa beauté dépassant de loin la leur, et tant pis pour l'œil au beurre noir qu'il lui aurait fallu être aveugle pour ne pas voir. Puis il se lança dans un long développement au sujet de la robe écarlate, faite pour elle, il l'aurait juré, et en rajouta une couche sur son extraordinaire courage. Par deux fois, il proposa à l'objet de sa flamme une promenade au quart de lune, ajoutant quelques allusions si bien voilées que Nineveh eut besoin d'y réfléchir à deux fois pour conclure qu'elle voulait bien dire ce qu'elle croyait.
« Cette robe sera un écrin pour que s'y épanouisse ta bravoure, »
souffla-t-il à l'oreille de la jeune femme.
« Pourtant, elle n'aura été qu'un voile, car les lys nocturnes eux-mêmes pleureront de jalousie en te voyant marcher près de l'eau caressée par les rayons de lune. Et moi-même, ébloui, je me transformerai en barde pour chanter ta gloire sous la lumière de l'astre nocturne.
Perplexe, Nineveh tenta de comprendre ce que voulait dire ce discours. Croyant qu'elle battait des cils pour lui, Luca se pencha vers elle, l'obligeant à lui flanquer un coup de coude accidentel dans les côtes avant qu'il ait pu lui mordiller l'oreille. Que cette privauté ait été son intention ou non, Luca toussa comme un perdu, puis il affirma avoir avalé de travers une miette de pain d'épices. Cet homme était plutôt beau, il fallait l'avouer.
Arrête ça !
Et il avait effectivement le mollet bien fait.
« Parce que tu regardes ses jambes maintenant. »
Cela dit, il la traitait comme une idiote. S'il déployait ainsi son charme, c'était dans l'intérêt de son fichu spectacle. Pendant qu'il reprenait son souffle, Nineveh déplaça de nouveau son tabouret. Pas beaucoup, afin de ne pas montrer qu'elle fuyait les assiduités d'un séducteur. De toute façon, sa fourchette était prête à frapper, au cas où il repasserait à l'assaut. Alors qu'elle était parfaitement vide, Tom s'obstinait à étudier son assiette. Les yeux rivés sur les flammes agonisantes du feu, Juline sifflotait distraitement. Elaine regarda Nineveh et secoua la tête.
« Merci de t'être joint à nous, Luca, »
dit Nineveh en se levant. L'homme l'imita, une lueur d'espoir dansant dans ses yeux en même temps que le reflet des flammes mourantes. Nineveh déposa son assiette sur une main de son soupirant.
« Tom et Juline te seront très reconnaissants de les aider à faire la vaisselle, j'en suis sûr. »
Alors que Luca en restait bouche bée, l'ancienne sage-dame se tourna vers Elaine.
Il est tard, et je suppose que nous traverserons le fleuve très tôt demain.
Ça va de soi, oui,
souffla Elaine avec l'ombre d'un sourire. Elle posa son assiette sur celle de Nineveh, puis suivit sa compagne dans la roulotte. Très contente de la fille héritière, Nineveh l'aurait volontiers embrassée, en tout cas jusqu'à ce qu'elle prenne la parole.
Vraiment, tu ne devrais pas l'encourager ainsi.
Les lampes fixées aux parois s'allumèrent avec un bel ensemble.
L'encourager ?
Répéta Ninevé, les poings plaqués sur les hanches.
Pour le décourager davantage, il faudrait que je le poignarde.
Avec un soupir bien féminin, elle désigna les lampes.
La prochaine fois, utilise une tige à feu, Daludra. Un de ces quatre, tu finiras par canaliser en public. Et qu'arrivera-t-il ? Nous devrons fuir à toutes jambes. Une centaine de capes blanches sur les talons.
En bonne tête de pioche, Elaine ne se laissa pas détourner de son propos.
Je suis plus jeune que toi, mais souvent j'ai l'impression d'en savoir plus sur les hommes que tu n'en apprendras jamais. Pour un type comme Valan Nuka, tes minauderies de ce soir n'étaient qu'une façon de lui demander d'aller plus loin. Flanque-lui un bon coup de poing sur le nez, comme le premier jour, et il n'insistera plus. Là, tu ne lui ordonnes pas d'arrêter. En fait, tu ne lui demandes même pas, et tu lui souris sans cesse. Quelle conclusion est-il censé en tirer ? Depuis des jours, tu n'as souri à personne d'autre.
J'essaie de contrôler mon tempérament,
grommela Ninevé. Tout le monde s'en plaignait, et maintenant qu'elle faisait un effort, voilà qu'Elaine lui reprochait. Car voyons, elle n'était pas assez idiote pour se laisser prendre au compliment de ce type, pas vrai ? Voyant qu'Elaine riait d'elle, elle la foudroya du regard.
Ninevé, à l'aube, on ne peut pas empêcher le soleil de se lever. Ligny aurait pu penser à toi quand elle disait ça.
Non sans effort, Ninevé réussit à ne pas faire la grimace, car enfin, elle savait se contrôler.
Ne viens-je pas de le démontrer avec ce pot de colle ? Elaine, donne-moi l'anneau. Cet individu va vouloir traverser le fleuve très tôt demain. Et je voudrais dormir un peu, après en avoir terminé.
Je pensais y aller ce soir,
fit Elaine avec un rien d'inquiétude.
Tu vas dans le monde des rêves presque tous les soirs, sauf que nous avons rendez-vous avec Egwene. Au fait, Baer va avoir un différend à régler avec toi. J'ai dû dire pourquoi tu n'étais pas au dernier rendez-vous, et selon elle, tu ne devrais pas avoir besoin de te reposer, si fréquentes que soient tes incursions, sauf si tu fais quelque chose de travers.
L'inquiétude se muant en fermeté, ce fut Elaine, cette fois, qui plaqua les poings sur les hanches.
J'ai dû écouter un sermon qui t'était destiné. Un moment très désagréable, surtout en présence d'Egwene, qui approuvait du chef chaque mot. Donc j'insiste, ce soir je... S'il te plaît,
implora Ninevé sans baisser sa main tendue.
Je dois poser des questions à Birgit, et ses réponses me donneront matière à réflexion.
C'était plus ou moins la vérité. En toutes circonstances, elle pouvait imaginer des questions pour Birgit. En d'autres termes, ça n'était pas un prétexte pour éviter Egwene et les matriarches. Si Elaine en aurait les rendez-vous, c'était un effet du hasard, et rien de plus. Elaine soupira, mais elle tira de sous sa robe l'anneau de pierre suspendu à son cou.
Eh bien, pose-la tes questions. Mais affronter Egwene est difficile, crois-moi. Elle a vu Birgit. Et si elle ne dit rien, tu verrais la façon dont elle me regarde. Et c'est pire quand on se retrouve après le départ des matriarches. Là, elle pourrait m'interroger, mais elle n'en fait rien. Et c'est encore plus pénible.
Elaine fronça les sourcils, tandis que Ninevé ajoutait l'anneau de pierre à la lanière de cuir où pendait déjà la chevalière de l'âne et la bague au serpent.
Selon toi, pourquoi aucune matriarche ne l'accompagne-t-elle jamais à ce moment-là ? Dans le bureau d'Elaïda, nous n'apprenons jamais grand-chose. Mais les matriarches devraient au minimum vouloir voir la tour. Et Gwen ne veut pas aborder ce sujet devant les Aiel. Si je m'en approche, elle me regarde comme si elle allait me gifler. Je pense que les matriarches entendent éviter la tour autant que possible.
Une sage décision. S'il n'y avait pas eu la guérison, Ninevé aurait elle aussi fui ce lieu, et les Aes Sedai par la même occasion. Son propos n'était pas de devenir une sœur, mais d'en apprendre plus sur l'art de guérir, et d'aider Rand, bien entendu.
Elles sont libres, Elaine. Même si la tour n'était pas dans une situation si délicate, crois-tu qu'elles voudraient voir des Aes Sedai sillonner leur désert pour repérer des candidates et les ramener de force à Tarvalon ? Ça se tient,
reconnut la fille héritière. À l'évidence, songea Ninevé, elle ne comprenait pas qu'on puisse raisonner ainsi. Pour elle, la Tour Blanche était un lieu merveilleux, et elle n'imaginait pas qu'une femme puisse avoir envie de se tenir très loin des Aes Sedai. « Unie à la Tour Blanche à tout jamais », disaient les sœurs quand elles passaient la bague au serpent au doigt de quelqu'un. Et ce n'était pas un vœu pieux, mais la fille héritière, avec toute la sottise de la jeunesse, ne trouvait pas ça excessif. Après qu'Elaine lui aidait à se déshabiller, Ninevé se glissa sous sa couverture en sous-vêtements et bâilla sans décrocher la mâchoire. La journée avait été longue et, bizarrement, rester debout quand on vous lançait des couteaux dessus se révélait épuisant, surtout quand on avait un bandeau sur les yeux. Quand elle faisait sa coquette avec Tom, Elaine avait prétendu que c'était pour s'entraîner. Depuis quelque temps, le numéro de papa gâteau et de fille favorite qu'il jouait en permanence n'était guère moins agaçant à regarder. Cela dit, l'idée de s'entraîner restait judicieuse. Un peu d'exercice avec Valan ne pourrait pas lui faire de mal, non ? Non. C'était une idée stupide. Les hommes avaient un cœur d'artichaut, certes. Pas l'âne, s'il tenait à ses abattis. Mais les femmes, et elles en particulier, savaient être fidèles. Bref, elles ne porteraient pas cette robe bien trop décolletée.
« Souviens-toi de l'interroger encore !»
entendit-elle vaguement, comme si la voix d'Elaine venait de très loin. Puis le sommeil la submergea. Elle se tenait devant la roulotte en pleine nuit. Dérivant devant la lune, des nuages projetaient leurs longues ombres sur le camp. Comme toujours, les grillons chantaient, et les oiseaux de nuit poussaient leurs cris sinistres. Dans leur cage, les lions la regardaient, leurs yeux brillants à travers les barreaux. Les ours à museau blanc, eux, dormaient à pattes fermées. Pas un seul cheval n'était attaché à la corde tendue entre deux piquets. Les chiens de Clarine brillaient par leur absence tout au long de la laisse qui courait sous la roulotte que la jeune femme partageait avec Petra. Pareillement, l'endroit où se tenaient les Esredites dans le monde éveillé était désert. Dans Tel Aranriod, seules les bêtes sauvages avaient un reflet. Bien que le sachant, Nineveh dut faire un effort pour admettre que les monstrueuses créatures grises, malgré les affirmations de la Seanchanienne, étaient apprivoisées depuis assez longtemps pour entrer dans la catégorie des animaux domestiques. Soudain, la jeune femme s'aperçut qu'elle portait la robe. Écarlate, bien trop serrée sur les hanches, et dotée d'un décolleté si profond que le contenu risquait d'en jaillir sans crier gare. À part Berylaine, qui donc aurait pu s'affubler ainsi? Eh bien, elle, pour l'âne, en supposant qu'il soit seul. Et justement, c'était à lui qu'elle pensait en s'endormant.
N'est-ce pas que c'était à lui?
Quoi qu'il en soit, pas question que Birgit la voie ainsi accoutrée. Cette femme se targuait d'être une guerrière, et en la fréquentant, Nineveh s'était avisée qu'elle pouvait avoir aussi mauvais esprit que les hommes, commentaire déplacé compris. Un mélange de Berylaine et d'un pochard de taverne fort en gueule. Bref, un cauchemar. Les commentaires ne sortaient pas à jet continu, mais très régulièrement lorsque l'ancienne sage-dame arborait une tenue de ce genre. Elle opta pour une rassurante robe en laine sombre de deux rivières, ajoutant même un châle dont elle n'avait pas besoin, puisque ses cheveux étaient de nouveau convenablement nattés. Se sentant prête, elle ouvrit la bouche pour appeler Birgit.
Pourquoi t'es-tu changée ?
Demanda la guerrière blonde en émergeant des ombres. Elle s'appuya à son arc d'argent qui, comme ses flèches, brillait intensément sous les rayons de lune.
Je me souviens d'avoir porté une robe qui aurait pu être la copie de celle-là. C'était pour attirer l'attention des gardes. Les yeux ont failli leur sortir des orbites, pour que Gaïdal puisse passer sans être vu. Mais c'était quand même amusant, surtout quand je l'ai remise pour aller danser avec lui un peu plus tard. Il a horreur des balles, vois-tu, mais ce coup-là, il ne m'a pas lâché, afin qu'aucun autre homme ne m'approche.
Birgit éclata de rire.
Ce soir-là, je l'ai littéralement détroussé au toton, parce qu'il était trop occupé à me regarder pour s'intéresser au tableau de nombres. Les hommes, quand même. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il me voyait avec... Oui, les hommes, tu peux le dire.
Coupa Nineveh en tirant sur son châle. Certains sujets étaient décidément trop glissants.
Je l'ai trouvé.
Enchaîna Birgit avant que son interlocutrice ait eu le temps de lui poser une question.
« Où ?»
demanda Nineveh, oubliant toutes ses autres questions.
« T'as-t-elle vu ? Peux-tu me conduire à elle, sans qu'elle s'en aperçoive ?»
Le ventre serré par la peur, s'il l'avait vue ainsi, sûr que Valanuka ne se serait pas répandu en billes vesées sur son courage, Nineveh ne douta pas un instant que cette terreur se transformerait en rage lorsqu'elle verrait Mogedienne.
« Si tu peux m'aider à m'en approcher !»
Elle se tut. Car Birgit venait de lever une main.
Je suppose qu'elle ne m'a pas vu. Sinon, je ne serais pas ici pour t'en parler.
Oubliez les propos un peu lestes. Pour être franche, Nineveh trouvait plus facile de fréquenter l'héroïne lorsqu'elle incarnait la gravité généralement attachée à un soldat.
Je peux te conduire près d'elle pour un court moment si tu en as envie. Mais sache qu'elle n'est pas seule. Enfin, pas. Mais tu verras. Tu devras garder le silence et ne rien entreprendre contre Mogedienne. Elle est avec d'autres rejetés. Tu pourrais peut-être la vaincre, mais crois-tu faire le poids contre 5 rejetés ?
L'angoisse se déversa dans toute la poitrine de Nineveh, faisant aussi trembler ses genoux. 5 ? Le mieux était de demander à Birgit de lui décrire ce qu'elle avait vu, puis d'en rester là. Une bonne occasion de retourner dans son lit pour... Mais l'héroïne la regardait. Pas pour mettre en doute son courage, non. Seulement parce qu'elle attendait sa décision, prête à faire ce qu'elle lui dirait.
Je me tairai, et je n'envisagerai pas un instant de canaliser.
Pas face à 5 rejetés, en supposant qu'elle ait pu canaliser dans de telles circonstances. Pour l'heure, elle raidit les jambes pour interdire à ses genoux de jouer des castagnettes.
Quand tu voudras.
Birgit souleva son arc et posa une main sur l'épaule de sa compagne. Ninevée en eut le souffle coupé. Birgit et elle, entourées d'obscurité, se tenaient sur du néant. Alors qu'il était impossible de distinguer le haut du bas, leur translation semblait devoir durer jusqu'à la fin des temps. La tête tournant comme une toupie, l'ancienne sage-dame se força cependant à regarder dans la direction que l'héroïne lui indiquait. Sous elle, Mogadienne aussi flottait dans le vide. Vêtue d'un noir presque aussi sombre que les ténèbres environnantes, elle tendait le cou pour mieux écouter. Au-dessous d'elle, quatre fauteuils à haut dossier, tous différents, trônaient sur un carré de sol en pierre blanche qui dérivait lui aussi dans le noir. Ninevée entendit la conversation des occupants des sièges comme si elle avait été parmi eux.
« N'a jamais été un lâche »,
finissait de dire une jolie blonde agréablement enveloppée.
« Alors pourquoi commencer ?»
Apparemment vêtue exclusivement de brume argentée et de pierres précieuses scintillantes, la belle blonde se prélassait dans un fauteuil d'ivoire sculpté afin de paraître composé d'acrobates nus. Quatre hommes de bois tenaient lieu de pieds et d'assises au siège, et les accoudoirs étaient travaillés pour représenter le dos de deux femmes agenouillées. En guise de dossier, deux hommes et deux femmes tenaient un coussin de soie blanche sous la tête de la blonde. Au-dessus, d'autres acrobates se contorsionnaient, prenant des postures que Ninevée n'aurait pas cru possibles pour un corps humain. S'avisant que certains de ces personnages faisaient bien autre chose que des acrobaties, elle rougit jusqu'à la racine des cheveux. Un homme se pencha en avant dans son propre fauteuil. De taille moyenne, très costaud, il portait une barbe blonde carrée et une balafre lui zébrait le visage. D'inspiration martiale, son siège représentait des colonnes d'hommes en armes et de chevaux caparaçonnés. En haut du dossier, un point ganté de fer projetait un éclair. Grâce aux broderies en fil d'or qui l'ornaient sur le col et les manches, sa veste rouge compensait largement l'absence de dorure sur le fauteuil.
« Personne ne me traite de lâche !»
dit-il d'un ton dur.
« Mais si nous continuons comme ça, il finira par me sauter à la gorge !»
« C'était le plan depuis le début ?»
dit une voix de femme mélodieuse. Derrière l'interminable dossier d'un fauteuil qui semblait fait de pierres blanches et d'argent, Ninevée ne parvint pas à distinguer la rejetée qui venait de parler. Massif, les tempes argentées, le second homme, d'une sombre beauté, jouait avec un gobelet d'or tout en se calant confortablement sur son trône. Pour ce siège incrusté de pierres précieuses, il n'existait pas d'autre nom. D'autant que sous les émeraudes, le rubis et les pierres de lune, Ninevée aurait juré voir briller de l'or pur. Un détail qui expliquait sans doute pourquoi, en sus de sa taille, le siège semblait terriblement lourd.
« Il se concentrera sur toi, » dit le second homme d'une voix grave. « Si besoin est, un de ses proches mourra, à l'évidence sur ton ordre. Ainsi, il viendra pour toi. » Et pendant que son attention sera détournée, nous le capturerons. Nous trois, liés dans le pouvoir. Quelque chose a changé pour que ce plan soit modifié ?
Rien du tout,
marmonna l'homme à la balafre.
En particulier, surtout pas ma totale absence de confiance en vous. Je veux faire partie du lien, sinon, ce sera la fin de notre association.
La jolie blonde inclina la tête en arrière et eut un rire de gorge.
« Mon pauvre ami »
railla-t-elle avec un geste de la main condescendant.
« Crois-tu qu'il ne verra pas que tu fais partie d'un lien ? Il a un professeur, ne l'oublie pas. Médiocrement doué, certes, mais pas complètement idiot. Si ça continue, tu vas demander à ajouter assez de sœurs de l'âge à noir, de fichues gamines, pour que le cercle compte plus de 13 unités, histoire que Ravine ou toi ayez le contrôle. Si Ravine se fie assez à nous pour faire partie du lien, alors que l'une de nous deux sera aux commandes,
dit la voix mélodieuse.
Tu peux te montrer au moins aussi confiant.
L'homme massif baissa les yeux sur son gobelet, et la femme vêtue de brume eut un petit sourire.
Si tu redoutes que nous nous retournions contre toi,
fit la rejetée invisible,
dis-toi que nous nous surveillerons bien trop les uns les autres pour que ce soit possible. Samael, tu étais d'accord avec ce plan. Pourquoi discutailler maintenant ?
Ninevée sursauta lorsque Birgit lui tapota le bras et se retrouva de nouveau au milieu du campement, sous la chiche lumière de la lune voilée par des nuages. Comparé à l'endroit d'où venaient les deux femmes, ce décor semblait presque normal.
« Pourquoi ?»
Le cœur faisant des bonds dans sa poitrine, Ninevée dut s'interrompre pour déglutir.
« Pourquoi nous as-tu ramenés ? Mogadienne nous a vus ?»
Concentrée sur les autres rejetés, dont le mélange d'étrangeté et de banalité l'avait fascinée, elle avait oublié de garder un œil sur Mogadienne. Voyant Birgit secouer la tête, elle eut un soupir de soulagement.
Je ne l'ai presque pas quitté des yeux, et elle n'a pas bougé un muscle. Mais je déteste être exposée ainsi. Si elle avait relevé les yeux, elle ou un des autres.
Frissonnant quand même, Ninevé ajusta son châle sur ses épaules.
Ravine et Samael,
dit-elle d'une voix qu'elle aurait voulu moins érailler.
As-tu reconnu les femmes ?
Bien sûr que Birgit les avait reconnues. Quelle question idiote. Mais quand on était bouleversé.
L'âne Féar était dissimulée par son fauteuil. L'autre, c'était Graendal. Ne va surtout pas la prendre pour une idiote parce qu'elle se pavane sur un siège qui ferait rougir un tenancier de maison de tolérance Senge. Elle est perverse et utilise ses jouets dans des rituels qui inciteraient les soldats les plus paillards que j'ai connus à faire vœu d'abstinence.
C'est vrai,
dit la voix de Mogedien.
Graendal est perverse, mais pas assez.
Birgit se retourna, leva son arc, saisit une flèche d'argent pour l'encocher et décolla du sol, volant dans les airs pour aller percuter la roulotte de Ninevé à 30 pas de là. Rebondissant contre le véhicule, elle tomba sur le sol et ne bougea plus. Ninevé tenta de se tenir au Saïdar. Bien sûr, elle avait peur, mais sa colère aurait pourtant dû suffire. Hélas, un mur invisible la séparait de la chaude lumière de la source authentique. Alors qu'elle manquait en hurler d'horreur, quelque chose la saisit par les pieds, la souleva du sol et la suspendit dans l'air à l'envers. Puis ses bras se soulevèrent et vinrent rejoindre ses chevilles, au-dessus de sa tête. Se transformant en poudre, ses vêtements glissèrent le long de sa peau, et sa tresse lui tira la tête en arrière, jusqu'à ce que la pointe de ses cheveux entre en contact avec le creux de ses reins. Affolée, elle tenta de fuir le rêve, mais rien ne se passa. Les muscles tendus à craquer, elle était en suspension dans l'air, presque pliée en deux comme un animal pris dans un filet. Parcourue de spasmes, le bout des doigts frôlant ses pieds, elle avait le sentiment, si elle tentait de bouger davantage, d'être condamnée à se casser en deux. Bizarrement, sa peur s'était volatilisée, maintenant qu'il était trop tard. Sans la terreur dans laquelle elle s'était comme engluée, au moment d'agir, elle aurait été assez rapide. Désormais, elle n'avait plus qu'une envie. Nouer ses doigts autour du cou de Mogedien.
Pense que ça t'est utile dans ta situation.
Chaque inspiration lui coûtait un effort douloureux. L'aura du Saïdar l'enveloppant, une forme de moquerie, la rejetée vint se placer à un endroit où Ninevé pourrait la voir, au milieu du triangle tremblant que formaient ses bras.
J'ai imité un détail du fauteuil de Graendal, très cher.
Comme celle de Graendal, la robe brumeuse de Mogedien passait d'une quasi-transparence à la noirceur d'un épais brouillard, puis recommençait le cycle. Ninevé avait vu son ennemi ainsi vêtu à Tanchico.
Je n'aurais pas pensé toute seule à cette figure. Mais Graendal peut se révéler très stimulante.
Ninevé foudroya du regard Mogedien, qui ne sembla même pas s'en apercevoir.
J'ai du mal à croire que tu aies vraiment osé te lancer à ma poursuite.
Parce que tu m'as eu un jour par surprise, aurais-tu l'outrecuidance de te prendre pour mon égal ?
Mogedien éclata de rire.
Si tu savais tout le mal que je me suis donné pour te trouver. Et voilà que tu viens à moi.
Elle regarda autour d'elle, s'attardant sur les lions et les ours avant de revenir à Ninevé.
Une ménagerie ? Tu seras vraiment facile à dénicher si j'en ai encore besoin.
Tu veux me faire plaisir ? Carbonise-toi toute seule !
Grinça Ninevé. Enfin, essaya de grincer, car pliée en deux comme elle l'était, les mots sortaient difficilement et douloureusement. N'osant pas regarder directement Birgit, de toute façon elle n'aurait pas pu tourner suffisamment la tête, elle fit mine de faire rouler ses yeux dans tous les sens, un effet de la panique, et parvint à apercevoir l'héroïne blonde. Un grand vide se fit dans son estomac déjà tendu comme une peau de mouton mise à sécher. Des flèches d'argent à moitié sorties de son carquois, son arc gisant sur le sol à un pas de sa main inerte, l'héroïne blonde ne bougeait plus.
Par surprise, as-tu dit ? C'est toi qui m'as prise en traître. Sinon, je t'aurais fouetté jusqu'à ce que tu implores ma clémence. Oui, je t'aurais tordu le cou comme un vulgaire poulet.
Si Birgit était morte, Ninevé n'avait plus qu'une chance, si on pouvait appeler ça ainsi. Énervée Mogedien au point qu'elle la tue pour se défouler. S'il y avait eu au moins un moyen d'avertir Elaine, eh bien, sa mort ferait l'affaire avec un peu de chance.
Tu te rappelles avoir dit que tu te servirais de moi comme marchepied pour monter à cheval ? Plus tard, je dis que je te rendrais l'appareil. Ça, c'était après que je t'ai roué de coups, quand tu pleurnichais, implorant que je te laisse la vie sauve. Tu m'aurais tout donné pour ça.
Tu n'es qu'une garce sans courage. Les déjections d'un pot de chambre, toi, espèce de...
Quelque chose d'épais s'insinua dans la bouche de Ninevée, lui écrasant la langue et la forçant à ouvrir en grand les mâchoires.
« Tu es tellement prévisible, »
murmura Moghedienne.
« Crois-moi, je suis assez furieuse contre toi. Inutile d'en rajouter. »«
Un marchepied ? » ?»«
Non, je crois que je vais te transformer en cheval. Ici, c'est tout à fait possible.
Un cheval, une souris, une grenouille. » Moghedienne eut un sourire qui fit frissonner sa victime.
« Un grillon, peut-être ?»
Elle tendit l'oreille, écoutant les bruits nocturnes.
« Chaque fois que tu viendrais dans le monde des rêves, tu serais un cheval, jusqu'à ce que je décide de changer, ou que quelqu'un d'autre doté des connaissances requises le fasse. »
Elle se tut de nouveau, l'air presque compatissante.
« Non, je ne vais pas te donner de faux espoirs. Nous ne sommes plus que 9 désormais à maîtriser cette technique, et tu n'aimerais pas être dans les mains des autres. En tout cas, pas plus qu'être entre les miennes. Donc, tu seras un cheval chaque fois que je t'amènerai ici, avec ta selle et tes rênes. J'irai même jusqu'à natter ta crinière. »
La natte de Ninevée manqua s'arracher à son cuir chevelu.
« Bien entendu, tu te rappelleras qui tu es. Du coup, j'apprécierai sûrement nos chevauchées, alors que toi... »
Moghedienne prit une grande inspiration, sa robe arborant une teinte sombre et pourtant brillante sous la pâle lumière de la lune. Sans pouvoir le jurer, Ninevée aurait bien dit que c'était la couleur du sang frais.
« Mais voilà que tu me fais ressembler à ces mirages. En avoir fini avec toi sera une bonne chose, parce que je pourrai m'occuper des choses vraiment importantes. Ta petite chipie blonde est avec toi dans la ménagerie. »
L'obstacle qui empêchait Ninevée de parler se volatilisa.
« Je suis seul, espèce d'imbécile !»
Comme si on lui tapait dessus des chevilles jusqu'aux épaules, Ninevée fut tétanisée de douleur. Une fois encore, elle hurla à s'en casser les cordes vocales. Par fierté, elle voulut s'en empêcher, mais ses cris continuèrent à lui percer les tympans. Des larmes roulant sur ses joues, elle s'abandonna au désespoir et au calvaire qui l'attendait.
« Est-elle avec toi ?»
demanda Moghedienne.
« Ne perds pas ton temps à me faire sortir de mes gants. Quoi qu'il arrive, je ne te tuerai pas, et tu resteras à mon service de très longues années. Tu n'es pas trop doué, mais avec une bonne formation, tu pourrais être utile. Bref, je vais te dresser. En attendant, ce que tu viens de subir risque de te paraître aussi doux que les caresses d'un amant, si tu me pousses à bout. Alors réponds. »
Ninevée parvint à reprendre son souffle.
« Non. Après notre départ de Tanchico, elle s'est enfuie avec un homme. Assez vieux pour être son grand-père, mais plein aux as. Nous avons entendu parler des derniers événements à la tour. Et elle avait peur d'y retourner. »
À coup sûr, la rejetée était déjà au courant de ça. Moghedienne rit de bon cœur.
« Quelle belle histoire. Je comprendrais presque ce qui plaît tant à ces mirages quand elles brisent des esprits. « Ninevée Almehara, tu vas être pour moi une grande source d'amusement. Mais d'abord, tu vas me livrer Elaine. Tu la couperas de la source, tu la neutraliseras, et tu me la livreras pieds et poings liés. Sais-tu pourquoi tu m'obéiras ? Parce que certaines choses sont plus puissantes dans Talaran Riyod que dans le monde normal. C'est pour ça que tu seras une jument à la robe blanche chaque fois que je t'amènerai ici. La douleur qu'on éprouve en ce lieu se répercute dans le monde éveillé, mais il n'y a pas que ça. La coercition aussi franchit la frontière. Tu vas réfléchir un peu à tout ça, puis tu penseras que l'idée vient de toi. Je parierais que cette fille est ton amie. Pourtant, tu me la livreras comme un vulgaire animal domestique et... »
Moghedienne hurla au moment où la pointe d'une flèche d'argent dépassa soudain de sous son sein droit. Ninevée s'écrasa sur le sol, à la manière d'un vulgaire sac de patates. L'impact lui coupa le souffle comme si on l'avait flanqué un coup de marteau dans le ventre. Luttant pour respirer, elle mobilisa toute sa volonté pour bouger ses muscles douloureux, surmonter la douleur et atteindre le Saïdar. Sur des jambes vacillantes, Birgit prit une autre flèche dans son carquois.
« File, Ninevée !»
tenta-t-elle de crier.
« Va-t'en !»
Dodelinant de la tête, l'héroïne leva de nouveau son arc, mais il tremblait entre ses mains. L'aura qui enveloppait Moghedienne gagna en intensité au point de devenir aveuglante. l'obscurité déferla sur Birgit, la submergeant comme une vague noire. Quand cette marée fut passée, l'arc retomba sur un petit tas de vêtements vides, qui ne tardèrent pas à se désintégrer, ne laissant sur le sol que l'arme et ses projectiles d'argent. Mogedienne tomba à genoux, les deux mains serrant le fragment de hampe qui dépassait de sa poitrine. Autour d'elle, l'aura se dissipa, puis elle disparut aussi, et la flèche d'argent rouge de sang tomba sur le sol à l'endroit où elle s'était tenue. Après ce qui lui parut une éternité, Ninevé parvint à se redresser sur les mains et les genoux. Pleurant à chaudes larmes, elle rampa jusqu'à l'arc de Birgit. Et ces larmes-là, ce n'était pas la douleur qui les lui arrachait. Nue comme un ver, le cœur brisé, elle s'empara de larmes.
Je suis désolée, Birgit. Pardonne-moi, je t'en prie.
Bien entendu, il n'y eut pas de réponse, sinon l'appel sinistre d'un oiseau de nuit. Lorsque la porte de la chambre de Mogedienne s'ouvrit à la volée, l'élu entrant dans le salon en titubant, sa chemise de soie rouge de sang, Liandrine se leva d'un bond. Chesmal et Temeil l'imitèrent, chacune courant prendre par un bras la rejetée blessée. Liandrine resta debout à côté de son siège. Les autres sœurs étaient à l'extérieur, et peut-être même hors d'Amador. Mogedienne n'en disait jamais plus que nécessaire, et elle détestait qu'on lui pose des questions superflues.
Qu'est-il arrivé ?
Cria Temeil. Le regard que lui jeta Mogedienne aurait pu la carboniser sur place.
Tu as quelques menues aptitudes pour la guérison,
dit l'élu à Chesmal d'une voix étrangement faible, sans doute à cause du sang qui coulait au coin de ses lèvres.
Alors interviens, idiote!
La sœur aux cheveux noirs originaire du Géaldan posa les mains sur la tête de Mogedienne. Tandis que l'aura du pouvoir enveloppait Chesmal, Liandrine ricana in petto. Que Temeil et Chesmal semblaient inquiètes. Deux chiennes fidèles à leur maîtresse. Un spectacle écœurant. Dressée sur la pointe des pieds, Mogedienne inclina la tête en arrière. Les yeux écarquillés, elle tremblait de tous ses membres et l'air s'échappait par saccades de sa bouche ouverte, comme si elle avait été immergée dans de la glace. Tout fut très vite fini. L'aura disparut autour de Chesmal et les talons de la rejetée reprirent contact avec le tapis à motifs bleu et vert. Sans l'aide de Temeil, Mogedienne se serait sans doute écroulée, car l'essentiel de l'énergie requise par la guérison ne venait pas du pouvoir, mais de la personne qu'on soignait. Si la blessure qui lui avait fait perdre autant de sang était guérie, Mogedienne devait se sentir aussi faible qu'après des semaines d'alitement. S'emparant du foulard jaune et ivoire glissé dans la ceinture de Temeil, elle s'essuya la bouche pendant que la sœur l'aidait à s'orienter vers la porte de sa chambre. En état de grande faiblesse, et le dos tourné. Liandrine frappa plus fort que jamais dans sa vie, se servant de tout ce qu'elle avait appris pendant que la rejetée la torturait. Hélas, le Saïdar se déversa à flots en Mogedienne, et l'assaut de Liandrine se dissipa tandis qu'elle se retrouvait coupée de la source. Des flux d'air la soulevèrent du sol, puis la propulsèrent contre un mur lambrissé avec assez de violence pour que ses dents s'entrechoquent. Les bras en croix, elle resta suspendue où elle était. Chesmal et Temeil se consultèrent du regard, comme si elles ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Elles continuèrent à soutenir Mogedienne, qui vint se camper devant sa victime, toujours en s'essuyant la bouche. Le sang qui maculait son chemisier noircit soudain, puis se détacha du tissu et tomba sur le tapis. Un tissage élémentaire.
« C'est un malentendu, grande maîtresse !»
se défendit Liandrine.
« Je voulais seulement t'aider à bien dormir !»
Pour une fois, reprendre l'accent du peuple ne semblait pas gêner la hautaine surmoire.
« Je voulais... »
Un flux d'air saisit la langue de Liandrine, la tordit et la tira entre ses dents. Les yeux exorbités, la sœur n'osa plus respirer. Juste un peu plus de tension et...
« Faut-il que je l'arrache ?»
demanda Mogedienne comme si elle parlait tout haut.
« Je ne crois pas. Quel dommage pour toi que Ninevé Almehara m'ait incité à penser comme ces mirages. Sinon, je me serais contenté de te tuer. »
Mogedienne noua le bouclier qui isolait Liandrine de la source, créant un entrelacs si complexe que sa victime, bien avant qu'elle en ait terminé, ne sut plus où il commençait et où il finissait.
« Voilà, »
dit enfin l'élu, apparemment très satisfaite.
« Pour trouver quelqu'un capable de défaire cet écheveau, il te faudrait chercher longtemps. Mais tu n'en auras pas l'occasion. »
Liandrine regarda les deux autres sœurs, quêtant un peu de sympathie ou de pitié. Le regard de Chesmal demeura de glace. Les yeux brillants, Temeil se tapota les lèvres du bout d'un index et eut un sourire qui n'avait rien d'amical.
« Tu croyais en savoir très long sur la coercition ?»
fit Mogadienne.
« Eh bien, je vais approfondir tes connaissances. »
Liandrine frissonna. Les yeux de la rejetée emplissant soudain son champ de vision, elle eut le sentiment que sa voix emplissait entièrement son crâne.
« Vie !»
L'impression d'exploser se dissipa. Alors que de la sueur ruisselait sur son front, la sœur noire vit que la rejetée lui souriait.
« La coercition a bien des limites. Mais quand on ordonne à quelqu'un de faire une chose dont il a instinctivement envie, la consigne dure jusqu'à son dernier souffle. Même au moment où tu imploreras la mort, prête à te la donner, tu continueras à vivre. Des nuits entières, tu sangloteras en imaginant combien serait doux pour toi le repos éternel. »
Les flux qui enserraient la langue de Liandrine disparurent.
« Par pitié, grande maîtresse !»
s'écria la sœur noire, après avoir à peine pris le temps de déglutir.
« Je n'avais pas l'intention !»
Une gifle magistrale faillit lui arracher la tête.
« Eh bien !»
fit Mogadienne.
« Les punitions physiques ont également leur charme. Veux-tu me supplier encore ?»« Pitié, grande maîtresse !»
La deuxième gifle fit danser des points noirs devant les yeux de Liandrine.
« Encore ?» « Pitié !»
Le troisième coup manqua déboîter la mâchoire de la sœur noire.
« Si tu ne te montres pas un peu plus inventive, je vais cesser de t'écouter. Ouvre bien les oreilles, en revanche. Ce que j'ai prévu pour toi ferait les délices de ce mirage en personne. »
Mogadienne eut un sourire presque aussi sinistre que celui de Temeil.
« Tu vas vivre, sans être calmée, mais consciente qu'il te faudra trouver quelqu'un capable de dénouer mon tissage. » si tu veux canaliser de nouveau le pouvoir. Mais c'est loin d'être tout. Yvonne sera ravie d'avoir une fille de cuisine en plus, et je suis sûre que Damarène aura plaisir à parler très longuement de son mari avec toi. Ces gens apprécieront tellement ta compagnie qu'il m'étonnerait fort que tu sortes de cette maison avant des années. De très longues années, durant lesquelles tu auras l'occasion de regretter de ne pas m'avoir loyalement servi.
Liandrine tenta de crier non et pitié, mais ses sanglots l'en empêchèrent. Mogadienne se tourna vers Temeil.
« Prépare cette chienne pour nos amis. Mais dis-leur bien qu'ils ne doivent ni la tuer ni l'estropier. Je veux qu'elle pense être en mesure de s'échapper. Un espoir, même vain, l'aidera à survivre et à continuer à souffrir. »
Mogadienne se détourna, s'appuyant au bras de Chesmal, et les flux qui maintenaient Liandrine en suspension se dissipèrent. Les jambes de la sœur se dérobant, elle s'écroula sur le tapis. Seul le bouclier demeura. Tentant futilement de le dénouer, elle rampa derrière Mogadienne, une main tendue pour saisir l'ourlet de sa robe.
« Pitié, grande maîtresse !»« Elles sont avec une ménagerie, »
dit l'élu à Chesmal.
« Toutes vos recherches, et il a fallu que je les trouve moi-même. Une ménagerie ne devrait pas être trop difficile à localiser, non ?»« Je te servirai fidèlement !»
sanglota Liandrine. La peur liquéfiant ses membres, elle ne parvenait pas à ramper assez vite. Et les trois autres femmes ne daignaient même pas se retourner pour lui jeter un coup d'œil.
« Lis-moi à toi, grande maîtresse. Tout ce que tu voudras, je serai ta chienne fidèle. » « Beaucoup de ménageries voyagent vers le nord, »
dit Chesmal, avide de justifier ses échecs.
« En direction du Galdan. Alors je dois y aller. Procurez-vous des chevaux et suivez. »
La porte de la chambre se referma avant que Mogadienne ait terminé sa phrase.
Une chienne fidèle,
gémit Liandrine, recroquevillée sur le tapis. Elle releva la tête, essuya ses larmes et regarda Temeil qui se frottait les bras en souriant.
Nous pourrions la dominer, Temeil. Oui, à nous trois. Nous trois, tu n'es même pas en état de dominer le gros Yvonne.
Les yeux plissés, elle étudia le bouclier qui isolait Liandrine de la source.
Tu pourrais tout aussi bien être calmée. Écoute-moi, je t'en prie.
Liandrine tenta en vain de s'éclaircir la voix, mais elle continua à parler d'un ton bizarrement pâteux.
« Nous avons parlé de la dissension qui doit régner entre les élus. Si Mogadienne se cache, c'est qu'elle fuit les autres. Si nous la capturons afin de la leur livrer, imagine les récompenses que nous recevrons. Nous pourrions devenir supérieurs au roi et aux reines. Des élus, voilà ce que nous pourrions devenir. »
Un court moment, béni pour Liandrine, la sœur au visage enfantin hésita, puis elle secoua la tête.
Tu n'as jamais su rester à ta place. Qui tend les bras vers le soleil se fait brûler.
Merci, mais je n'ai pas envie de connaître ce sort. Je vais plutôt obéir et te préparer pour qu'Evon soit satisfait.
Temeil eut un sourire carnassier qui accentua sa ressemblance avec un renard.
Il sera très surpris de te voir ramper à ses pieds pour les lui embrasser.
Liandrine hurla avant même que l'autre sœur ait commencé son dressage.